le 8 mars. Ça, c'est samedi. C'est la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. On souligne cette journée avec un peu d'avance à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On n'a pas le choix parce que ça serait peut-être trop tard rendu au 10. Alors, pour parler de la lutte des femmes pour leurs droits, et surtout dans un contexte queer, j'invite donc deux personnes de nos communautés. Naomi Caron, qui est directrice générale de la Fondation Massimadi, fondation qui fait la promotion de la culture et des arts dans les communautés LGBTQ+, afro, depuis 2009. Salut, bienvenue à l'émission à nouveau.
Salut, merci encore pour une deuxième fois d'être avec toi.
C'est vraiment cool. Ben c'est cool. Ben, je pense que c'était le fun de t'avoir pour parler justement des questions qui touchent particulièrement les femmes. Et toi, on utilise toujours les pronoms « elle », c'est ça?
Oui, exactement.
Et les accords féminins.
Exactement.
Et on reçoit aussi Judith Lefebvre. Judith Lefebvre est écrivaine et militante transféministe. Judith, bienvenue à l'émission.
Merci.
On utilise quel pronom et quel accord avec toi?
« Elle » féminin.
Parfait. Mais je vais commencer avec toi, Judith. J'aimerais ça qu'on parle un peu de ton engagement dans le transféminisme pour qu'on puisse te connaître avant d'aller dans le plus profond de la discussion. Toi, ça passe par l'écriture et la création. On parle d'un espace communautaire avec Agenda. Comment es-tu arrivé à mêler ou à mettre ensemble littérature et militantisme?
Bien, pour moi, c'est pas quelque chose qui est à mettre ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui vient ensemble, de base.
Oui.
C'est Audre Lorde qui disait « Poetry is not a luxury mm-hmm. ». Pour la simple et bonne raison, puis pour la même raison que Audre Lorde l'a mentionné à son époque, qu'on n'a toujours pas les mots pour nommer nos propres oppressions comme femmes trans. On a tout un langage à développer. On a un féminisme à faire qu'on n'a toujours pas fait parce que, pour un ensemble de raisons, je ne vais pas entrer dans le détail, mais tout ça pour dire que l'écriture, elle est fondamentale dans le fait de créer une subjectivité, un sujet politique transféministe tant qu'à moi. L'écriture, ça peut être l'écriture, évidemment, celle des idées, les essais, évidemment, mais aussi celle de la poésie, une écriture qui est sensible, notamment à travers le collectif Bidezine. On a voulu mettre en valeur justement cette écriture sensible-là des femmes trans du Canada, des États-Unis, d'Europe, en français et en anglais en particulier. Fait que c'est vraiment, pour moi, ça va de soi.
Naomi, toi, tu travailles avec la Fondation Massimadi, fondation qui met en lumière les artistes LGBTQ+, afro. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir dans cette mission-là?
Je pense comme beaucoup de personnes de ma communauté, ça prend un peu de temps avant de sortir du placard. Et des fois, c'est des initiatives comme ça qui nous fait vraiment rencontrer nos communautés que peut-être dans le passé, on n'a pas eu la chance de côtoyer. Moi, je suis une femme bisexuelle, donc c'est sûr que j'ai vécu une bonne partie de ma vie hétéro. Et puis, à un certain âge, justement, j'ai voulu m'affirmer. Ça n'a jamais été comme un gros coming out, parce que ça a été quand même dans ma culture aussi familiale et amicale qu'il n'y avait jamais eu de problème. Fait que j'ai jamais eu senti qu'il fallait que je m'expose. Mais aussi, par rapport à mes forces personnelles, où est-ce que ma carrière m'a amenée, je me suis dit, c'est le temps aussi là, de reconnecter avec mes communautés, mais de l'aider aussi. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous dire que je suis directrice de la Fondation.
Je vais revenir sur ta communauté et la difficulté supplémentaire de faire un coming out ou de vivre aussi sa queerness. Mais j'aimerais ça, je pense, lancer la discussion entre vous deux. La Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, ça veut dire quoi dans nos communautés queer et trans?
On se regarde, qui veut
prendre commencer?
Mais c'est des combats, si on veut parler du combat trans et combat de la femme cisgenre, ils sont tous le même. Et même moi, en tant que personne racisée, c'est la même chose. La seule chose qu'on veut, c'est le respect et d'être reconnu pour dans toute notre multitude, notre complexité et d'être traité comme des humains, point final. Fait que c'est là qu'on peut se rejoindre dans tous ces combats-là et que là, je tombe dans un autre sujet, mais que je trouve difficile. Des fois, je trouve qu'on a tendance à vouloir se diviser dans les combats, de mettre trop de mots, quand à la base, ça devrait être juste l'amour, point final.
L'amour, point final, Judith?
Le 8 mars, spécifiquement, pour moi... Ça reste un peu un symbole des luttes à faire, je dirais. Je le disais d'entrée de jeu, pour nous, le féminisme n'est pas fait. Le féminisme est à faire. Quand je dis le féminisme est à faire, c'est que pour moi, le sujet politique transféminin, se constitue toujours à travers la transition. On n'a pas accès au féminisme, on devient sujet du féminisme à travers l'acte de transitionner. Puis ce qui fait en sorte qu'on porte un féminisme qui est vraiment unique, qui est vraiment singulier, puis qui n'est pas réductible à l'histoire du féminisme telle qu'elle est racontée, puis telle qu'elle est faite actuellement. Puis quand on fait le travail réel de documenter nos vies, de documenter nos mouvements, de documenter notre histoire comme femme trans, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'on a été de tous les combats depuis les années 60. Tu sais, on retrouve des traces de militantes lesbiennes dès les Daughters of Bilitis, dans ce chapitre de San Francisco. Beth Elliott, c'est un très bon exemple. Fait que pour moi, la place des femmes trans dans le combat féministe en général, puis la place du 8 mars en particulier, à mon sens, c'est un espace à revendiquer. C'est pas... parce qu'on a beaucoup mis l'accent dans les dernières années sur l'inclusivité, puis etc., puis j'en ai un peu rien à... J'ai un peu dépassé la notion de l'inclusivité. Moi, je veux pas qu'on me donne une place toute faite. Je veux prendre ma place. Je veux que les femmes trans aient une place à elles dans le féminisme, qu'elles se la taillent, puis qu'elles la fassent dans la lutte.
Naomi, les femmes queer racisées, est-ce qu'elles ont leur place? Est-ce qu'elles doivent prendre leur place? Est-ce qu'on leur donne leur place? Parce que je trouve que ça se pose
oui,
à toi aussi,
totalement.
Ça.
Ouais. Exactement. Ben, j'adore, en fait, ton point de vue ou comment tu amènes, justement, de ne pas attendre d'être inclus à la conversation. Puis c'est un peu ça que Massima dit, c'est de créer des espaces de conversation pour rejoindre ces gens-là, d'avoir les mêmes opinions. Mais malheureusement, je crois qu'il faut aussi rentrer dans les espaces qui sont juste, on va dire, féministes, c'est genre blanc. Il faut rentrer pour justement aider le changement. C'est pas en restant écarté un peu plus à l'arrière ou dans notre coin qu'on va vraiment changer les choses.
Absolument. Pour moi, c'est une question qui se rapporte à ce que j'appelle l'autonomie des luttes, en fait. Là. C'est que ça prend toujours cette espèce d'aller-retour. Tu sais, dans l'organisation, en non-mixité, souvent, il y a une espèce d'emphase qui s'est mise sur les dernières années. On a perdu de vue un peu l'objet politique de la non-mixité, qui est né, d'ailleurs, qui a été importé dans le féminisme par le mouvement des droits civiques dans le sud des États-Unis. Là. C'est fascinant comme histoire, l'histoire de la non-mixité. Là. Puis à la base, c'est simplement des mouvements qui se retrouvent entourés de leurs propres alliés, puis qui décident de faire hey, « Écoutez, pour les orientations politiques de notre mouvement, là, pour nos décisions, pour ce qu'on a de besoin, puis ce qu'on veut faire, vous allez prendre le bord pendant 10 minutes. On va discuter entre nous autres, puis on va prendre des décisions de ce qu'on a de besoin. » Puis ce que tu dis, je pense que c'est important, parce que ça prend cet aller-retour-là. Moi, je crois fondamentalement à la non-mixité comme moment d'organisation politique, mais pour moi, c'est un moment. Ça prend ce retour-là, après, de retourner dans les espaces, parce que là, on est en force, on est entre nous, on sait ce qu'on veut, on s'est entendu, puis là, on fait front commun, puis on dit « Vous allez nous respecter. » Puis vous allez nous faire une place. Plutôt que d'arriver de façon complètement désarticulée ou de façon complètement atomisée en token, à être obligé de comme, se battre contre des systèmes. Parce que c'est ça aussi, c'est on met beaucoup d'accent dans les dernières années sur le polissage, sur comme « Ah, telle personne a dit une telle affaire, là, c'est pas bon. » Puis à un moment donné, c'est comme, il faut comprendre que oui, il y a des gens qui sont cringe, mais cringe. Ils s'inscrivent dans un système d'oppression, puis à un moment donné, il faut qu'on soit capable d'agir sur les composantes systémiques de ça, puis ça va prendre, ça prend ce moment d'organisation en non-mixité, je pense, mais ça prend aussi le moment, pas forcément de confrontation, mais justement de dignité. Tu sais, de juste être comme, OK, bien, si vous ne voulez pas, on va s'en aller. Tu sais, puis ça fait tâche dans ce temps-là.
De se retrouver dans des moments, tu sais, nous, à la Fondation, on a des moments où est-ce qu'on fait des activités juste pour les personnes noires, vraiment pour leur donner cet espace-là, puis de se retrouver. Puis après ça, on a des moments mixtes. Donc, c'est un peu ça, moi, je trouve, dans est-ce qu'on peut dire le néo-féminisme, aller se rendre où est-ce qu'on veut. Oui, on reconnaît l'individualité de chaque groupe, mais on se rejoint justement à certains moments pour combattre certains angles du combat en général.
Absolument. Ça fait encore penser à Audre Lorde.
En passant, c'est qui Audre Lorde, pour ceux qui connaissent pas?
Audre Lorde, militante féministe lesbienne noire américaine, qui était une poète, une écrivaine surtout, en fait, mais qui a eu un gros impact a posteriori, en fait, par la diffusion de ses discours en particulier, notamment le plus connu probablement... c'est « Will not destroy the master's house with the master's tools », quelque chose comme ça.
On va pas détruire la maison du maître avec les outils du maître, oui.
Une phrase qui est d'ailleurs très mal interprétée d'habitude, puis justement qui porte plutôt sur ce que tu viens de dire, tu sais, qui est cette espèce d'idée que comme « Non, mais attendez, quand on dit les femmes, c'est pas un groupe homogène. Tu sais, quand Audre Lorde, ce qu'elle dit, c'est ça, c'est comme, écoutez, mais moi, je suis une lesbienne noire, est-ce que je suis fit dans votre histoire, là, dans votre récit, là? Vous êtes là, en femme blanche, en train de faire un les femmes, c'est ci, les femmes, c'est ça. Ça tu sais, il y a un contexte extrêmement spécifique de comme ça, c'est une oppression misogyne, ça l'est pas. Puis à un moment donné, t'es comme, moi, je suis une lesbienne noire. Tu sais, t'as toutes sortes de cas de figure. Il n'y a pas juste les questions raciales, les questions de sexualité, mais tu sais, juste des questions aussi niaiseuses. Que comme il y a des femmes qui vivent des enjeux, par exemple, relatifs à la. Fertilité.
Leur statut social
ou leur statut social, l'immigration, ou comme juste des enjeux signataux que justement la fertilité, à un moment donné, c'est comme si on fait juste mettre la question de OK, le droit à l'avortement comme seul enjeu reproductif des femmes, on manque tout un paquet. J'arrête pas de m'éloigner du micro. On manque tout un paquet, on manque tout un paquet d'autres enjeux qui sont fondamentaux pour la santé, la sécurité. Tu sais, c'est juste. Faut avoir le cœur de regarder la un peu plus granularité, là, les conditions réelles de vie des femmes.
J'aimerais vous orienter dans cette discussion-là sur un autre sujet. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque dans nos communautés de la diversité sexuelle et de genre pour que des femmes comme vous se sentent part entière, incluses, qu'on réponde à vos besoins? Qu'est-ce qui manque?
Peux-tu me permettre?
Oui, vas-y.
OK. Moi, c'est super drôle. Je vais référer à un post Instagram du Conseil québécois LGBT. En février de l'année passée. Ils ont fait un post pour dire, parce que, bon, pour les gens qui ne savent pas, le bureau de lutte contre l'homophobie faisait partie du ministère de la Justice. Il a été déplacé au secrétariat de la condition féminine. Le secrétariat de la condition féminine, depuis plusieurs années, il y a un groupe de femmes qui s'appelle le G13, qui est un ensemble d'organisations féministes qui revendiquent la création d'un ministère à part entière. Parce que le secrétariat, en fait, a juste un pouvoir de recommandation, puis il ne peut pas faire exactement ce que le bureau pouvait faire à travers le ministère de la Justice. Et la réaction du Conseil québécois LGBT, ça a été de dire « Les droits LGBT ne sont pas afférents aux droits des femmes ». Puis, à un moment donné, parce que t'es comme, OK, mais les lesbiennes sont où? Les femmes trans sont où? Il y a un moment donné où c'est comme, les femmes bisexuelles sont où? Je veux dire, il y a un moment donné où on est comme, non, mais attendez, les enjeux LGBT ne sont pas distincts, ne sont pas à part, ne font pas. Puis, je trouve qu'il y a vraiment ça qui, à un moment donné, il va falloir qu'on confronte à l'intérieur des groupes LGBT puis des communautés LGBT, c'est qu'il y a un insularisme de ce secteur-là de la société civile qui dessert vraiment, vraiment beaucoup les gens qui se trouvent à des intersections. Et là, tout le monde parle d'intersectionnalité, et on le voit pas. T'sais, moi, j'en vois pas de la recherche sur la situation réelle des femmes trans, sur la violence domestique, sur la question du logement, sur la question de la sécurité alimentaire. Puis je le vois autour de moi à quel point les gens sont misérables, à quel point les gens souffrent. Puis on voit ça nulle part. Ça fait pas partie des revendications d'aucun groupe LGBT, ça.
Ça m'étonne qu'il n'y ait aucun groupe, justement, qui revendique
les
droits
de le mouvement transféministe qu'on vient de fonder.
C'est ça, mais il y en a quand même d'autres, là, mais ça me surprend.
Et les enjeux, tu les vois où, Naomi, toi?
C'est ça, comment débattre ça en quelques minutes?
J'ai confiance en toi.
Moi, j'aime bien revenir à la base des choses, ouais. Sans aller trop complexe, là, genre aller à la base des choses. Tu sais, c'est d'écouter, c'est d'avoir de l'empathie, c'est d'entendre l'autre, que je trouve que souvent, quand on est dans la peine, dans la douleur, dans le trauma, on devient vraiment autour de soi-même, puis c'est nous qui sommes dans la peine, puis c'est nous qui avons la pire genre des vies. Mais non, genre, tout le monde vit des difficultés à des niveaux différents, puis il faut se reconnaître dans cette différence-là que on a des... Tu sais, c'est un peu là la conversation d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça montrer les forces de tous les mouvements ensemble, comment ensemble on peut changer les choses face à un système qui est mal, qui est... Bon, mon côté féministe patriarcal...
Oui, c'est permis.
Que c'est ça le problème à la base. Fait qu'il faut arrêter de genre se diviser puis de parler des problèmes de chacun. Together, c'est quoi qui fait qu'on va changer les choses? Comment on fait pour attaquer... You know, the big problem here. Ouais.
Mais ouais. J'ai l'impression que ce à quoi tu réfères, c'est vraiment plus une stratégie politique qu'un angle d'analyse, par exemple.
C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes angles. Moi, en tant que directrice, c'est sûr que je vois un peu plus côté politique, puis c'est aussi par rapport à mon bagage personnel.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens que moi, je pense qu'il faut faire la place à beaucoup de granularité, justement, pour comprendre les situations particulières et singulières. Mais après ça, effectivement, il y a aussi un effort de coalition qui n'est pas fait. qui est au niveau politique. Puis, sauf que le point, c'est que si on veut être capable de, puis encore, j'en reviens à Audre Lorde, si on veut être capable de faire ce travail de coalition-là, il faut être capable, il faut que les groupes majoritaires reconnaissent l'autonomie des luttes qui forment cette coalition-là et donnent le pouvoir aussi à ces particularismes-là à l'intérieur de cette coalition-là. Puis il faut que toutes les parties prenantes de la coalition puissent défaire la coalition. Parce que sinon, il n'y a pas d'équilibre. Puis il y a juste toujours cette tendance vers la domination des intérêts de la majorité ou des intérêts des groupes les plus privilégiés. Puis tu parlais, genre, moi je trouve ça fascinant, tu parlais justement de la souffrance, puis à quel point c'est fondamental dans le discours, dans la façon dont les gens articulent l'organisation collective à l'heure actuelle. C'est infernal pour vrai. Mm-hmm. Ça rend les choses très, très, très difficiles pour l'organisation collective. Il faut à un moment donné qu'on fasse ce travail-là, effectivement, de sortir un peu de l'affect, je pense, pour aller faire un travail plus méta, justement, de créer cette coalition-là. Là.
Pensez à la transcendance.
Il reste quelques minutes. Ça, je pense que je ne peux pas faire autrement que vous amener sur cette discussion-là. On a vu au sud de la frontière que le patriarcat est retourné au pouvoir puis en force.
Il n'a jamais quitté.
Non, c'est
jamais...
ça.
Mais disons que c'est un patriarcat décomplexé qui se retrouve... je vais reprendre les mots d'Olivier Niquette à la dystopie américaine. mais c'est quand même menaçant. Comment nous, comme communauté, et surtout vous, comme communauté de femmes, comment vous devez, ou comment vous réagissez, comment vous devez combattre ça, comment vous pouvez combattre ça?
En toute honnêteté, je suis encore en train de faire ma stratégie parce que c'est tellement gros.
C'est énorme,
c'est,
hein?
C'est énorme, puis c'est ça qui est vraiment foudroyant, c'est qu'on a tellement fait d'avancer, puis là, on est en train de le balancer, on est en train de retourner complètement de l'autre côté, puis il va falloir faire les choses autrement. Genre, fait que moi, je suis encore en train d'analyser le tout, puis voir comment on va attaquer
on le pouvoir. On est en état de choc, hein?
Oui, ouais, vraiment.
Pas vraiment.
Mais dans le sens... mais j'aime les points de vue divergents.
Dans le sens
alors,
que
oui.
Moi, je veux dire, cette situation-là, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à m'impliquer aussi intensément depuis 3 ans. Je veux dire, moi, quand il y a eu le projet de loi 2 qui a été déposé, j'ai vu la réaction des groupes de la communauté, puis j'ai dit, on n'est pas prêts. Ouais. On n'est pas prêts. Ça fait 30 ans qu'on utilise des millions et des millions et des millions de dollars et qu'on investit ça dans nos oppresseurs. On leur demande de changer leur point de vue puis de nous traiter comme du monde. Puis voyez, c'est quoi que ça fait? C'est comme tu parles de tous les progrès qu'on a fait. Moi, je trouve que ça montre à quel point on n'a fait aucun progrès. À quel point tout ce qu'on a réussi à faire, c'est changer l'opinion de 2-3 personnes qui, du moment que le prix des aliments devient un peu trop cher, se garoche se lance sur nous pour nous humilier, tu sais. Pour moi, c'est clair que ce qu'on a refusé de faire pendant des années, c'est de bâtir une stratégie politique, de bâtir des infrastructures de résilience. Je veux dire, là, en ce moment, c'est ça que j'essaie de faire depuis 3 ans, c'est de bâtir ces infrastructures de résilience-là, justement.
Il me reste une minute. J'aimerais ça vous donner chacune 30 secondes. Qu'est-ce qu'on se souhaite dans cette journée internationale de lutte pour les droits des femmes?
Ben on l'a soulevé, avancer, coalition, amour, paix, empathie, générosité.
Judith?
Je vais reprendre le mot coalition en particulier. Je suis là pour la politique. Je veux qu'on fasse la job. Je veux qu'on fasse la job. On est là pour gagner. On n'est plus là en train de défendre. On repart à l'attaque.
Oh my God, quelle belle conversation. Judith Lefebvre, Naomi Caron, merci beaucoup d'avoir participé à l'heure où l'arc-en-ciel se lève.